de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi Tiwi dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et comme d'habitude, je vous accompagne pendant 60 minutes pour l'édition d'aujourd'hui, samedi, le 11 janvier 2020. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia. Chers auditeurs, bienvenue dans le programme du journal. On commence par le titre. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche développera l'aquaculture dans la région de Mempawa. Quatre projets stratégiques nationaux 2020. À Kalimantan Oriental, le président Joko Widodo invite le Japon à investir à Natuna. Le président accepte le président directeur général d'IDFC et lui offre un investissement potentiel dans l'infrastructure. La Banque mondiale a nommé Marie-Elka Pangestu comme directrice générale. Les candidats pro et anti-Chine concurrencent en lice pour l'élection présidentielle à Taïwan. Trump a augmenté les sanctions contre l'Iran. Voici le journal complet. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche élabore actuellement une stratégie de développement de l'aquaculture réalisée dans la région de Mempawa, Kalimantan Occidental. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Edi Prabowo, dans un communiqué reçu vendredi par Média Indonesia, a déclaré que la région de Mempawa a le potentiel économique de l'aquaculture qui peut être optimisé pour les économies régionales et nationales. Il a déclaré que l'optimisation dans le secteur de l'aquaculture a pu augmenter les revenus des gens. Par conséquent, au cours des 5 prochaines années, ce programme deviendra une priorité de travail pour le ministère des Affaires maritimes et de la pêche. Mais c'est indéniable. Il reste encore beaucoup de devoirs à faire, principalement le problème de la logistique des semences, la disponibilité de nourriture bon marché et les infrastructures inadéquates. Ces trois éléments feront l'objet d'une amélioration par le ministère des Affaires maritimes et de la pêche. Le gouverneur de Kalimantan Oriental, Isra Nor, a confirmé qu'en 2020, 4 projets stratégiques nationaux seront faits dans la province de Kalimantan Oriental, tels que la normalisation de la rivière Karangmumus à Samarinda, avec une valeur de projet de près de 2 trillions rupiah, la construction du réservoir de Lambakan en région de Pasir, le pont à péage Balikpapan, Penajam, et enfin la construction d'une route frontalière de 280 km. Le président Joko Widodo, accompagné des ministres indonésiens, a reçu une visite honorifique du ministre japonais des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi au Merdeka Palace, Jakarta, vendredi. Dans un contexte économique, le président Jokowi estime que le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, donnera beaucoup d'attention à la diplomatie économique. Par conséquent, le président espère que lors de la réunion, la coopération bilatérale sera discutée plus en détail. L'investissement est une priorité dans les relations entre l'Indonésie et le Japon. Permettez-moi de dire quelque chose lié à certaines des priorités de l'Indonésie concernant le Japon. La première, dans le secteur de l'investissement. Je voudrais inviter le Japon à investir dans Natuna. Et j'apprécie la coopération à Natuna. Il est le centre intégré de la mer et des pêches pour la première phase. Et j'espère que la proposition de financement pour la deuxième phase pourra être réalisée prochainement. Le président Joko Widodo a déclaré que le Japon était l'un des principaux partenaires de l'Indonésie. Le ministre japonais des Affaires étrangères tiendra une réunion avec son homologue Retno Marsudi pour discuter plus en détail. À cette occasion, le président Joko Widodo était accompagné du ministre de la Coordination de l'Économie Airlangga Hartarto, du ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi et du ministre d'État Pratikno. Le président Joko Widodo a accueilli le président directeur général de la Société internationale de financement de développement, ou abrégé en IDFC, Adam S. Buchler, pour discuter du potentiel de coopération en matière d'investissement dans les domaines des infrastructures. Lors de son discours au Palais Merdeka Jakarta, le président a déclaré qu'au cours de la deuxième période de son leadership, le développement des infrastructures se poursuivrait. Le gouvernement a besoin d'investissements pour financer un certain nombre de programmes de développement des infrastructures tels que les routes à péage, les aéroports, les ports, les infrastructures énergétiques et la technologie numérique. Le président Jokowi a expliqué que le gouvernement continuait d'améliorer ses politiques pour soutenir et créer un climat d'investissement favorable. On espère que l'Indonésie sera en mesure de réduire les disparités d'infrastructures pour devenir un pays hautement compétitif. Par conséquent, il a salué l'engagement du DFC à soutenir les programmes prioritaires du gouvernement indonésien, en particulier le développement des infrastructures, de l'énergie et de la technologie numérique. Le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a annoncé la nomination de Marie-Elka Pangestu au poste de directrice générale politique de développement et de partenariat pour la Banque mondiale. Malpass, dans un communiqué publié vendredi par l'agence de presse Antara à Jakarta, a déclaré qu'il était très heureux d'accueillir Marie-Elka à la Banque mondiale dans ce nouveau rôle important pour l'institution. Marie-Elka a rejoint la Banque mondiale en raison de son expertise exceptionnelle en matière de politique et de gestion. Auparavant, elle a été ministre du Commerce de la République d'Indonésie et ministre du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie. Selon Malpass, Marie-Elka a également une expérience d'économiste et de chercheuse ainsi qu'une vaste expérience en leadership. La participation au Grand Forum international sur les questions de développement important bénéficiera à l'emploi au sein du groupe de la Banque mondiale pour soutenir la croissance globale et la réduction de la pauvreté. 19,3 millions de Taïwanais utiliseront leur droit de vote lors de l'élection présidentielle qui s'est tenue samedi. Tsai Ing-wen, qui est anti-chinois, et Han Kuo-yu, qui est proche de Pékin, sont deux candidats en lice. L'AFP a annoncé vendredi que Tsai, qui était soutenu par le Parti progressiste démocratique ou abrégé en DPP, envisageait un deuxième mandat. Il dirige actuellement le sondage sur l'éligibilité. Tsai, qui était très anti-chinois, a utilisé des manifestations à Hong Kong comme matériel de campagne. Il a déclaré que Taïwan continuerait de maintenir un gouvernement démocratique libre et refuse la pression de la Chine qui était considéré comme autoritaire. Le président américain Donald Trump a déclaré que son gouvernement a augmenté les sanctions contre l'Iran. Les sanctions ont été renforcées après que Téhéran a tiré des missiles sur une base militaire en Irak qui abritait des troupes américaines. Trump, à la Maison-Blanche, a déclaré vendredi que les sanctions avaient considérablement augmenté. Trump n'a pas expliqué les dernières sanctions américaines. Il a déclaré que le ministère américain des Finances fera une déclaration à ce sujet. Après que l'Iran a lancé des attaques contre des bases militaires en Irak, mercredi, le 45e président américain a promis d'augmenter les sanctions économiques contre le régime iranien. Voilà les journaux d'aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de la région Banjar, à Kalimantan Sud. Mercredi dernier, 8 janvier, le fruit du durian nommé par son propriétaire Duri Hitam a remporté avec succès le concours de durian organisé dans le village Mandikapa West Distrik Karang Intan, Régence Banjar, Provence Kalimantan Sud. En plus du concours de durian, une activité lancée mercredi par le Bureau des services alimentaires et horticoles de Banjar a également organisé des préparations à base de durian et le lancement du fruit exotique Banjar en 2020 qui est un programme annuel. Le régent de Banjar, Halilur Rahman, a déclaré que les durians au concours de durian Mandikapa West étaient des durians millénaires mais étaient appréciés de tous les milieux en raison de leur arôme et de leur goût légitime et doux sur la langue. On espère qu'en plus d'être un festival qui vise à trouver des variétés locales de durian à proposer comme variété nationale supérieure, il motive également les agriculteurs qui sont au centre de la production de fruits. Ensuite, l'info de Bengkulu. Au total, 5 fleurs Rafflesia arnoldi fleurissent en 3 points dans la zone forestière du village Ulak Bandung, région Skaur, province Bengkulu. Anthony William, président de la communauté de jeunes qui se soucie du tourisme dans le district Muara Sahung, a déclaré mercredi dernier que les 5 fleurs étaient situées dans 3 endroits différents, à une distance d'environ 500 mètres. À l'heure actuelle, il y a plus de 20 bosses ou candidats de fleurs dans 11 points d'habitat. Anthony William espère que la richesse de la flore, qui est devenue une icône de la province Bengkulu, peut être une capitale dans le développement du village Ulak Bandung en tant que village touristique. La promotion et la publication sur les réseaux sociaux utilisés par la communauté de jeunes qui se soucient du tourisme ont porté leurs fruits. La preuve, un certain nombre de touristes nationaux étrangers de Russie et d'Australie sont venus dans leur village pour voir de visu l'habitat des fleurs Rafflesia. La dernière info est venue de Kota Waringin S, Kalimantan Sud. La police de recours Kota Waringin S, Kalimantan Central et Bayangkari ont planté 1000 semis de mangrove sur la plage Ujung Pandaran dans le district Teluk Sampit pour sauver le sujet touristique gagé. Le chef de la police de recours de Kota Waringin S, Muhammad Romel, à Sampit a déclaré jeudi que cela faisait partie du programme d'écologisation de la police d'Indonésie. La plage Ujung Pandaran a été choisie comme lieu de ce reboisement car cette plage est très sujette aux dommages. La mangrove plantée devrait protéger la plage des forêts vagues qui déclenchent l'abrasion. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 11 janvier. Le 11 janvier 1922, l'insuline a commencé à être utilisée pour traiter le diabète chez l'homme. Après un an de recherche, enfin, un premier patient diabétique à Toronto, au Canada, a été guéri avec l'insuline. Auparavant, le patient était isolé depuis le 27 juillet 1921 par le docteur Frederick Banting et son assistant Charles Best. L'insuline est une hormone qui aide à réguler la glycémie dans le pancréas. Les recherches du docteur Frederick Banting lui ont valu le prix Nobel de médecine en 1923. Le 11 janvier 1962, le mont Huascarán au Pérou a éclaté. Huascarán au Nevado fait partie des Andes occidentales et est la plus haute montagne du Pérou et la quatrième d'Amérique du Sud. Sa hauteur atteint 6768 mètres. Le 11 janvier 1962, le mont Huascarán a éclaté. L'éruption a causé la mort d'environ 4000 personnes. Le 11 janvier 1964, Luther Terry, chirurgien général des États-Unis, a publié le premier rapport sur la santé du gouvernement américain sur les dangers du tabagisme pour la santé. Ce rapport a ouvert la guerre entre le gouvernement américain et les cigarettes, une lutte qui a également été menée par d'autres pays à travers le monde. Terry mentionne que le tabagisme cause le cancer du poumon et des crises cardiaques. Ce rapport a été suivi d'une annonce ultérieure en 1972 par des chirurgiens généralistes que les fumeurs passifs étaient aussi risqués que les fumeurs actifs, puissent souffrir d'un cancer et de troubles fœtaux. Un an après le rapport de 1964, les paquets de cigarettes en Amérique doivent inclure des avertissements sur les dangers du tabac. En 1969, les États-Unis ont adopté une loi interdisant la publicité pour les cigarettes à la télévision et à la radio, mais elle n'a été pratiquée qu'en 1971. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chibi, Lego.
chanson de Cherry Bell, dont le titre est Malam Minggu, qui signifie le dimanche soir. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et la suite, la rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et un petit titre, les entreprises d'État sont prêtes à explorer des synergies avec les ambassadeurs indonésiens. Le ministre des entreprises d'État, Erick Thohir, est prêt à explorer les synergies avec les ambassadeurs de la République d'Indonésie qui sont en poste dans un certain nombre de pays afin de saisir des partenaires d'investissement, d'exportation et de coopération. Cela a été dit par Erick Thohir après avoir été conférencier invité lors d'une table ronde sur le thème « Accroître les investissements et la valeur ajoutée de l'industrie des ressources naturelles » lors d'une réunion de travail de tous les chefs de représentants de la République d'Indonésie tenue par le ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta jeudi 9 janvier. Erick Thohir a parlé des entreprises d'État aux ambassadeurs ainsi que la recherche d'une synergie entre le ministère des entreprises d'État et le ministère des Affaires étrangères. Erick a déclaré que le but du partage était d'explorer des choses qui pourraient être mises en synergie entre les entreprises d'État et les ambassades de la République d'Indonésie à travers le monde. Selon Erick, il a discuté avec le chef du Conseil de coordination des investissements et le ministre de l'énergie et des ressources minérales de la façon d'explorer les synergies avec les ambassadeurs. Erick a ajouté que le président Joko Widodo avait indiqué aux ambassadeurs que le travail des ambassadeurs était désormais concentré à 70 à 80% dans le secteur économique. Les exportations et les investissements sont donc des indicateurs clés de la performance des ambassadeurs. Selon Erick Thohir, cette politique est positive pour les entreprises d'État, étant donné que les entreprises d'État effectuent toute production pouvant être une nécessité pour d'autres pays. Par exemple, PT Inka produit des chemins de fer et peut être partenaire dans des pays comme le Bangladesh, etc. De plus, les exportations indonésiennes comme le rotin peuvent ouvrir de nouveaux marchés dans des pays comme l'Afrique. Ces questions sont mieux comprises par les ambassadeurs afin qu'ils puissent travailler en collaboration avec le ministère des entreprises d'État. La synergie avec les ambassadeurs peut également viser à trouver des partenaires. Erick a déclaré que le président Joko Widodo se rendrait aux Émirats Arabes Unis cette semaine pour signer la coopération de la raffinerie avec l'entreprise d'État des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC. Selon Erick Thohir, une coopération peut également être menée avec plusieurs autres entreprises là-bas afin de créer également des opportunités d'emploi. C'est là que le rôle des ambassadeurs est important. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Clafia intitulée « Lagu Bahagia » ou en français « La chanson heureuse ». En plus de la fréquence de 3325 kHz, Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Alors, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel introduisant l'île Senoa qui se trouve aux îles Riau. L'île Senoa est l'île la plus éloignée de l'Indonésie. Cette île est située à Ranai, en région Natuna, aux îles Riau. L'île Senoa a un beau panorama naturel, en particulier ses plages naturelles. Vue de sa forme, l'île Senoa ressemble à une femme enceinte allongée sur la mer. Par conséquent, les habitants l'appellent l'île de la mer enceinte. Selon l'histoire, dans les temps anciens, il y avait une femme enceinte qui était très célèbre pour son avarice. Par conséquent, lorsqu'elle était sur le point d'accoucher, personne ne voulait l'aider. Puis, elle est allée à la mer pour rattraper son mari qui était en mer. Mais au cours du voyage, la femme enceinte est décédée. Lors de la visite à l'île Senoa, vous trouverez des tortues qui errent librement au bord d'une plage de sable blanc et d'une eau de mer bleu clair. L'île Senoa est célèbre pour ses grottes de nid d'hirondelles qui font directement face aux rives de la mer et sont entourées de rochers escarpés. Du haut de la grotte du nid d'hirondelles, vous pourrez profiter de vues comme le mont Ranai, Batu Sindu et la plage Tanjung. Si vous êtes en vacances sur l'île Senoa, vous devez apporter votre propre nourriture car l'île Senoa est une île inhabitée. Seuls les gardiens du nid d'hirondelle vivent sur cette île. Pour ceux d'entre vous qui ont un passe-temps de pêche, n'oubliez pas d'apporter votre propre équipement de pêche. De même pour ceux d'entre vous qui ont un passe-temps de plonger en apnée. Vous devez également apporter votre propre équipement de plongée en apnée. Pour atteindre l'île Senoa, vous devez d'abord vous rendre à Natuna en utilisant un petit avion d'une capacité de 45 personnes depuis l'aéroport Hang Nadim, Batu Besar, Batam, les îles Riau ou depuis l'aéroport Kijang, Tanjung Pinang. Voyager en avion prend environ 1h30. Vous pouvez également utiliser une ligne de croisière en bateau Pelni depuis le port Kijang, Tanjung Pinang, Île Riau. Mais ce navire ne reviendra à Natuna qu'une semaine plus tard. Le trajet en bateau dure environ 12 heures. Une fois arrivé à Natuna, vous pouvez continuer le voyage vers le village Sepampang, puis continuer vers l'île Senoa qui prend environ 15 minutes et coûte environ 300 000 à 500 000 rupiah selon la taille du bateau de pêche loué pour faire la navette. Lors de ce voyage, vous aurez la vue sur une eau de mer cristalline avec de beaux récifs coralliens ainsi que sur le charme du mont Ranai dont le sommet est couvert de nuages épais. Plus vous vous rapprochez de Senoa, plus la mer enceinte apparaît au milieu de l'océan. Il y a quelque chose d'unique dans les rochers qui entourent cette île. Sur l'un des sommets des rochers, il y a un tas extérieur d'Indonésie. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas assez bons pour nager ou plonger, vous ne devriez pas aller dans cette partie car la profondeur est supérieure à 50 mètres et il y a de nombreux rochers. Vous pouvez entourer l'arrière de l'île en bateau. Sur cette île, vous pouvez également regarder le coucher du soleil, donc cet endroit est également très approprié pour se détendre, surtout à l'après-midi. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie. Au revoir.
Suka dia dari apa yang dia punya tapi apa daya yang namanya rasa datang gitu aja bukan jadi anak durhaka. Mama bilang suka dia dari apa yang dia punya tapi apa daya yang namanya rasa datang gitu aja bukan jadi anak durhaka. Mama sorry, somebody help me, oh mama sorry, aku cuma happy happy, oh mama sorry, somebody help me, oh mama sorry, sorry kalau bikin keki.
C'était la chanson de Hammerskin, dont le titre est Mama Sorry, qui signifie Pardon Maman. La rubrique suivante, voici l'Indonésie en colère, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Cher ami, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur, informant sur l'actrice senior Widyawati qui a remporté le prix au niveau Asie-Pacifique. Widyawati a remporté un prix au Festival du film Asie-Pacifique 2020 qui s'est tenu du 5 au 9 janvier à Macao. Elle a été nommée meilleure actrice de soutien dans son rôle dans le film Ambu. L'actrice, née en 1950, a déclaré être heureuse pour le prix. Widiawati a joué une mère bédouine dans le film Ambu. Les bédouines sont l'une des tribus d'Indonésie qui est très stricte pour maintenir l'influence de culture extérieure. Le rôle peut être rempli en agissant de manière très convaincante. Le succès de Widiawati a remporté le titre de meilleure actrice de soutien et a battu le record du plus vieil artiste indonésien à avoir atteint le meilleur artiste au niveau international. À l'âge de 70 ans, Widiawati continue de travailler dans l'industrie cinématographique. Le nom Widiawati a commencé à monter en flèche en incarnant Yuli dans le film Pengantin Remaja en 1971. Le film Ambu est un film qui traite de la question de l'acculturation de la tribu bédouine, l'un des groupes les plus stricts qui interagissent avec les cultures extérieures. Outre l'épaisseur de l'introduction de la culture indonésienne, le film est également considéré comme ayant une histoire intéressante remplie d'une cinématographie charmante. Le réalisateur du film Ambu, Farid Darmawan, a admis qu'il était honoré que son premier film puisse être le représentant de l'Indonésie au Festival du film Asie-Pacifique. Cependant, l'Association des sociétés cinématographiques indonésiennes, PPFI, a envoyé en 2020 deux films pour représenter l'Indonésie au Festival du film Asie-Pacifique. Les deux films sont Kucumbu Tubuh Indahku du réalisateur Garin Nugroho et Ambu du réalisateur Farid Darmawan. Cependant, le film Kucumbu Tubuh Indahku, qui a été traduit comme Memories of My Body, a remporté le titre de la meilleure histoire originale dans le même événement. Au niveau national, Kucumbu Tubuh Indahku a confirmé sa victoire en remportant 8 victoires parmi 12 nominations pour le Festival du film indonésien 2019 en décembre dernier. Le film de Garin Nugroho a remporté la catégorie du meilleur acteur de soutien, du meilleur créateur de mode, du meilleur directeur artistique, du meilleur monteur d'image et du meilleur créateur de musique, le meilleur acteur masculin, le meilleur long métrage et le meilleur réalisateur. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Selalu begitu, kamu merasa paling benar sendiri. Tak mau mendengarkan kataku, memaksa aku menjauh. masa aku menjauh.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Hijau Daun dont le titre est Selalu Begitu, qui signifie toujours comme ça. Nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Cette édition vous présente une chanson keroncong intitulée Harapanku. La chanson intitulée Harapanku, ou en français Mon espoir, a été composée par Ismanto. La chanson intitulée Harapanku raconte d'espoir et des rêves de faire langue dans l'âme, qui sont des grands espoirs et rêves pour que les Indonésiens soient heureux et prospères ensemble. Bon, chers auditeurs, voici Toto Salmon, dont le titre est Harapanku, qui signifie Mon espoir. Bonne écoute!
Betapa
sirangku mimpi kelora cita. Siang malam selalu mencari kumandang gemah panggilan harapanku yang bermukim di dalam mimpi yang menjelma rona cita. Serta kemakmuran bersama bagi bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Siapa suka jiwa lama
Indonesia.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci beaucoup d'être fidèles avec nous. On se retrouvera demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.